Chapitre 4. Je me chargeai de demander à M. de La Bourdonnais une permission d'embarquement pour ce voyage. Et avant tout, je voulus en prévenir Paul. Mais quel fut mon étonnement lorsque ce jeune homme me dit avec un bon sens au-dessus de son âge « Pourquoi voulez-vous que je quitte ma famille pour je ne sais quel projet de fortune ?» Y a-t-il un commerce au monde plus avantageux que la culture d'un champ qui rend quelquefois 50 et 100 pour un? Si nous voulons faire le commerce, ne pouvons-nous pas le faire en portant notre superflu d'ici à la ville, sans que j'aille courir aux Indes? Nos mères me disent que Domingue est vieux et cassé, mais moi, je suis jeune, et je me renforce chaque jour. Il n'a qu'à leur arriver, pendant mon absence, quelque accident, surtout à Virginie, qui est déjà souffrante. Oh, non, 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 je ne saurais pas me résoudre à les quitter. Sa réponse me jeta dans un grand embarras, car Madame de La Tour ne m'avait pas caché l'état de Virginie et le désir qu'elle avait de gagner quelques années sur l'âge de ces jeunes gens, en les éloignant l'un de l'autre. C'était des motifs que je n'osais même pas faire soupçonner à Paul. Sur ces entrefaites, un vaisseau arrivé de France apporta à Madame de La Tour une lettre de sa tante. À peine cette lettre fut-elle lue dans la famille qu'elle y répandit la consternation. Domingue et Marie se mirent à pleurer. Paul, immobile d'étonnement, paraissait prêt à se mettre en colère. Virginie, les yeux fixés sur sa mère, n'osait proférer un mot. « Pourriez-vous nous quitter maintenant ?» dit Marguerite à Madame de La Tour. « Non, non, mon ami, non, mes enfants, reprit Madame de La Tour, je ne vous quitterai point. J'ai vécu avec vous et c'est avec vous que je veux mourir. » Je n'ai connu le bonheur que dans votre amitié. Si ma santé est dérangée, d'anciens chagrins en sont cause. J'ai été blessé au cœur par la dureté de mes parents et par la perte de mon cher époux. Mais depuis, j'ai goûté plus de consolation et de félicité avec vous, sous ces pauvres cabanes, que jamais les richesses de ma famille ne m'en ont fait même espérer dans ma patrie. À ce discours, des larmes de joie coulèrent de tous les yeux. Paul serra Madame de La Tour dans ses bras, lui dit « Oh, je ne vous quitterai pas non plus, je n'irai point aux Indes. Nous travaillons tous pour vous, chère maman, rien ne nous manquera jamais avec nous. » Mais de toute la société, la personne qui témoigna le moins de joie et qui fut la plus sensible, fut Virginie. Elle parut le reste du jour d'une gaieté douce, et le retour de sa tranquillité mit le comble à la satisfaction générale. Le lendemain, au lever du soleil, comme ils venaient de faire tous ensemble, suivant leur coutume, la prière du matin qui précédait le déjeuner, Domingue les avertit qu'un monsieur à cheval, suivi de deux esclaves, s'avançait vers l'habitation. C'était M. de La Bourdonnais. Il entra dans la case où toute la famille était à table. Virginie venait de servir, suivant l'usage du pays, du café et du riz cuit à l'eau. Elle y avait joint des patates chaudes et des bananes fraîches. Il y avait, pour toute vaisselle, des moitiés de calebasse et, pour linge, des feuilles de bananier. Le gouverneur témoigna d'abord quelque étonnement de la pauvreté de cette demeure. Ensuite, s'adressant à Madame de La Tour, il lui dit que les affaires générales l'empêchaient quelquefois de songer aux particuliers, mais qu'elle avait bien des droits sur lui. « Vous avez, ajouta-t-il, madame, une tante de qualité et fort riche à Paris, qui vous réserve sa fortune et vous attend auprès d'elle. » Madame de la Tour répondit au gouverneur que sa santé altérée ne lui permettait pas d'entreprendre un si long voyage. Au moins, reprit monsieur de la Bourdonnais, pour mademoiselle votre fille, si jeune et si aimable, vous ne sauriez sans injustice la priver d'une si grande succession. Je ne vous cache pas que votre tante a employé l'autorité pour la faire venir auprès d'elle. Les bureaux m'ont écrit à ce sujet d'user, s'il le fallait, de mon pouvoir, mais ne l'exerçant que pour rendre heureux les habitants de cette colonie. J'attends de votre volonté seule un sacrifice de quelques années, d'où dépend l'établissement de votre fille et le bien-être de toute votre vie. Pourquoi vient-on aux îles? N'est-ce pas pour y faire fortune? N'est-il pas bien plus agréable de l'aller retrouver dans sa patrie? En disant ces mots, il posa sur la table un gros sac de piastres que portait un de ses noirs. Voilà, ajouta-t-il, ce qui est destiné aux préparatifs de voyage de mademoiselle votre fille, de la part de votre tante. Ensuite, il finit par reprocher avec bonté à madame de la Tour de ne pas s'être adressée à lui dans ses besoins, en la louant cependant de son noble courage. Paul aussitôt prit la parole et dit au gouverneur: Monsieur, ma mère s'est adressée à vous et vous l'avez mal reçue. Avez-vous un autre enfant, madame? Dit monsieur de la Bourdonnais à madame de la Tour. Non, non, monsieur, reprit-elle, celui-ci est le fils de mon ami, mais lui et Virginie nous sont communs et chers. Jeune homme, dit le gouverneur à Paul, quand vous aurez acquis l'expérience du monde, vous connaîtrez le malheur des gens en place. Vous saurez combien il est facile de les prévenir, combien aisément ils donnent aux vices intrigants ce qui appartient au mérite qui se cache. Monsieur de la Bourdonnais, invité par madame de la Tour, s'assit à table auprès d'elle. Il déjeuna, à la manière des créoles, avec du café mêlé avec du riz cuit à l'eau. Il fut charmé de l'ordre et la propreté de la petite case, de l'union de ces deux femmes charmantes, et du reste même de leur vieux domestique. Il n'y a, dit-il, ici que des meubles de bois, mais on y trouve des visages sereins et des cœurs d'or. Paul, charmé de la popularité du gouverneur, lui dit: Je désire être votre ami, car vous êtes un honnête homme. Monsieur de la Bourdonnais reçut avec plaisir cette marque de cordialité insulaire. Il l'embrassa en lui serrant la main et l'assura qu'il pouvait compter sur son amitié. Après déjeuner, il prit madame de la Tour en particulier et lui dit qu'il se présentait une occasion prochaine d'envoyer sa fille en France sur un vaisseau prêt à partir. Qu'il la recommande, jeune dame de ses parentes qui était passagère. Qu'il fallait bien se garder d'abandonner une fortune immense pour satisfaction de quelques années. Votre tante, ajouta-t-il, ne peut pas traîner plus de 2 ans. Ses amis l'ont mandé. Songez-y bien, la fortune ne vient pas tous les jours. Consultez-vous, tous les gens de bon sens seront de cet avis. Elle lui répondit que, ne désirant désormais d'autre dans le monde que celui de sa fille, elle laisserait son départ pour la France entièrement à sa disposition. Madame de la Tour n'était pas fâchée de trouver une occasion de séparer pour quelque temps Virginie et Paul en procurant leur bonheur mutuel. Elle prit donc sa fille à part et, Mon enfant, nos domestiques sont vieux. Paul est bien jeune. Marguerite vient sur l'âge. Je suis déjà infirme. Si j'allais mourir, que deviendriez-vous sans fortune au milieu de ces déserts? Vous resteriez donc seul, n'ayant personne qui puisse vous être d'un grand secours, et obligé, pour vivre, de travailler sans cesse à la terre comme une mercenaire. Cette idée me pénètre de douleur. Virginie lui répondit: Dieu nous a condamnés au travail. Vous m'avez appris à travailler et à le bénir chaque jour. Jusqu'à présent, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous abandonnera point encore. Sa providence veille particulièrement sur les malheureux. Vous me l'avez dit tant de fois, ma mère. Je ne saurais me résoudre à vous quitter. Madame de la Tour émue reprit: Mais je n'ai d'autre projet que de te rendre heureuse et de te marier un jour avec Paul, qui n'est point ton frère. Songe maintenant que sa fortune dépend de toi. Une jeune fille qui aime croit que tout le monde l'ignore. Elle met sur ses yeux le voile qu'elle a sur son cœur, mais quand il est soulevé par une main amie, alors les peines secrètes de son amour s'échappent comme par une barrière ouverte, et les doux épanchements de la confiance succèdent aux réserves et aux mystères dont elle s'environnait. Virginie, sensible au nouveau témoignage de bonté de sa mère, lui raconta quels avaient été ses combats, qu'il n'avait eu d'autre témoin que Dieu seul, qu'elle voyait le secours de sa providence dans celui d'une mère tendre qui approuvait son inclination et qui la dirigerait par ses conseils, que maintenant, appuyé de son support, tout l'engageait à rester auprès d'elle, son inquiétude pour le présent et sans crainte pour l'avenir. Madame de la Tour, voyant alors que sa confidence avait produit un effet contraire à celui qu'elle en attendait, lui dit: Mon enfant, je ne veux point te contraindre, délibère à ton aise, mais cache ton amour à Paul. Quand le cœur d'une fille est pris, son amant n'a plus rien à lui demander. Vers le soir, comme elle était seule avec Virginie, il entra chez elle un grand homme vêtu d'une soutane bleue. C'était un ecclésiastique missionnaire de Lille et confesseur de Madame de la Tour et de Virginie. Il était envoyé par le gouverneur. Mes enfants, dit-il en entrant, Dieu soit loué, vous voilà riches. Vous pourrez écouter votre bon cœur faire du bien aux pauvres. Je sais ce que vous a dit monsieur de la Bourdonnais et ce que vous lui avez répondu. Bonne maman, votre santé vous oblige de rester ici, mais vous, jeune demoiselle, vous n'avez point d'excuse. Il faut obéir à la Providence, à nos vieux parents, même injustes. C'est un sacrifice, mais c'est l'ordre de Dieu. Il s'est dévoué pour nous, il faut à son exemple se dévouer pour le bien de sa famille. Votre voyage en France aura une fin heureuse. Ne voulez-vous pas bien y aller, ma chère demoiselle? Virginie, les yeux baissés, lui répondit en tremblant: Si c'est l'ordre de Dieu, je ne m'oppose à rien. Que la volonté de Dieu soit faite, dit-elle en pleurant. Le missionnaire sortit et fut rendre compte au gouverneur du succès de sa commission. Cependant, Madame de la Tour m'envoya, priée par Domingue, de passer chez elle pour me consulter sur le départ de Virginie. je ne fus point du tout d'avis qu'on la laissât partir. Je tiens pour principe certain du bonheur qu'il faut préférer les avantages de la nature à tous ceux de la fortune, et que nous ne devons point aller chercher hors de nous ce que nous pouvons trouver chez nous. J'étends ces maximes à tout, sans exception. Mais que pouvaient mes conseils de modération contre les illusions d'une grande fortune et mes raisons naturelles contre les préjugés du monde et une autorité sacrée pour Madame de la Tour? Cette dame ne me consulta donc que par bienséance, et elle ne délibéra plus depuis la décision de son confesseur. Marguerite même, qui, malgré les avantages qu'elle espérait pour son fils de la fortune de Virginie, s'était opposée fortement à son départ, mais ne fit plus d'objection. Pour Paul, qui ignorait le parti auquel on se déterminait, étonné des conversations secrètes de Madame de la Tour et de sa fille, il s'abandonnait à une tristesse sombre. « On trame quelque chose contre moi, dit-il, puisqu'on se cache de moi. » Cependant, le bruit s'étant répandu dans l'île, que la fortune avait visité ses rochers, on y vit grimper des marchands de toute espèce. Ils déployèrent au milieu de ces pauvres cabanes les plus riches étoffes de l'Inde, de superbes bassins de goudelou, des mouchoirs de palliacate, des masulipatans, des mousselines de Dakka, unies, rayées, brodées, transparentes comme le jour, des maras de Surat d'un si beau blanc, des chites de toutes couleurs et des plus rares, à fond sablé et à rameaux verts. Ils déroulèrent de magnifiques étoffes de soie de la Chine, des lampas découpés à jour, des damas d'un blanc satiné, d'autres d'un vert de prairie, d'autres d'un rouge à éblouir, des taffetas roses, des satins à pleine main, des pékins moelleux comme le drap des mannequins blancs et jaunes, et jusqu'à des pagnes de Madagascar. Madame de la Tour voulut que sa fille achetât tout ce qui lui ferait plaisir. Elle veilla seulement sur le prix et les qualités des marchandises, de peur que les marchands ne la trompassent. Elle choisit tout ce qu'elle crut être agréable à sa mère, à Marguerite et à son fils. Ceci, disait-elle, était bon pour des meubles, cela pour l'usage de Marie et de Domingue. Enfin, le sac de piastre était employé, qu'elle n'avait pas encore songé à ses besoins. Il fallut lui faire son partage sur les présents qu'elle avait distribués à la société. Paul, pénétré de douleur à la vue de ces dons de la fortune qui lui présageaient le départ de Virginie, s'en vint quelques jours après chez moi. Il me dit d'un air accablé, « Ma sœur s'en va, elle fait déjà les apprêts de son voyage. Passez chez nous, je vous prie, employez votre crédit sur l'esprit de sa mère et de la mienne pour la retenir. » Je me rendis aux instances de Paul, quoique bien persuadé que mes représentations seraient sans effet. Si Virginie m'avait paru charmante en toile bleue du Bengale, avec un mouchoir rouge autour de sa tête, ce fut encore tout autre chose quand je la vis parée à la manière des dames de ce pays. Elle était vêtue de mousseline blanche doublée de taffetas rose. Sa taille légère et élevée se dessinait parfaitement sous son corset, et ses cheveux blonds, tressés à double tresse, s'accompagnaient admirablement sa tête virginale. Ses beaux yeux bleus étaient remplis de mélancolie, et son cœur agité par une passion combattue donnait à son teint une couleur animée et à sa voix des sons pleins d'émotion. Le contraste même de sa parure élégante, qu'elle semblait porter malgré elle, rendait sa langueur encore plus touchante. Personne ne pouvait la voir ni l'entendre sans se sentir ému. La tristesse de Paul en augmenta. Marguerite, affligée de la situation de son fils, lui dit en particulier « Pourquoi, mon fils, te nourrir de fausses espérances qui rendent les privations encore plus amères? Il est temps que je te découvre le secret de la vie et de ta mienne. » Madame de la Tour appartient par sa mère à une parente riche et de grandes conditions. Pour toi, tu n'es que le fils d'une pauvre paysanne, et qui pisait, tu es bâtard. Ce mot de bâtard étonna beaucoup Paul. Il ne l'avait jamais ouï prononcer. Il en demanda la signification à sa mère, qui lui répondit « Tu n'as point eu de père légitime. Lorsque j'étais fille, l'amour me fit commettre une faiblesse dont tu as été le fruit. Ma faute t'a privé de ta famille paternelle et mon repentir de ta famille maternelle. Infortuné, tu n'as d'autres parents que moi seul dans le monde. » Et elle se mit à répandre des larmes. Paul, la serrant dans ses bras, lui dit « Oh, ma mère, puisque je n'ai d'autres parents que vous dans le monde, je vous en aimerai davantage. Mais quel secret venez-vous de me révéler? Je vois maintenant la raison qui éloigne de moi Mademoiselle de la Tour depuis 2 mois et qui la décide aujourd'hui à partir. Ah, sans doute elle me méprise. » Cependant, l'heure de souper étant venue, on se mit à table où chacun des convives, agité de passions différentes, mangea peu et ne parla point. Virginie en sortit la première et fut s'asseoir au lieu où nous sommes. Paul la suivit bientôt après et vint se mettre près d'elle. L'un et l'autre gardèrent quelque temps un profond silence. Il faisait une de ces nuits délicieuses, si communes entre les tropiques, et dont le plus habile pinceau ne rendrait pas la beauté. La lune paraissait au milieu du firmament, entourée d'un rideau de nuages, que ses rayons dissipaient par degrés. Sa lumière se répandait insensiblement sur les montagnes de l'île et sur leurs pitons, qui brillaient d'un vert argenté. Les vents retenaient leur haleine. On entendait dans les bois, au fond des vallées, au haut des rochers, de petits cris, de doux murmures d'oiseaux qui se caressaient dans leur nid, réjouis par la clarté de la nuit et la tranquillité de l'air. Tous, jusqu'aux insectes, bruissaient sous l'herbe. Les étoiles étincelaient au ciel et se réfléchissaient au sein de la mer qui répétait leurs images tremblantes. Virginie parcourait avec des regards distraits son vaste et sombre horizon, distingué du rivage de l'île par les feux rouges des pêcheurs. Elle aperçut à l'entrée du port une lumière et une ombre. C'était le fanal et le corps du vaisseau où elle devait s'embarquer pour l'Europe et qui, prêt à mettre à la voile, attendait à l'ancre la fin du calme. À cette vue, elle se troubla et détourna la tête pour que Paul ne la vît pas pleurer. Madame de la Tour, Marguerite et moi, nous étions assis à quelques pas de là, sous des bananiers, et dans le silence de la nuit, nous entendîmes distinctement leur conversation que je n'ai pas oubliée. Paul lui dit « Mademoiselle, vous partez, dit-on, dans 3 jours. Vous ne craignez pas de vous exposer aux dangers de la mer dont vous êtes si effrayée ?»« Il faut, répondit Virginie, que j'obéisse à mes parents, à mon devoir. » Vous nous quittez, reprit Paul, pour une parente éloignée que vous n'avez jamais vue. Hélas, dit Virginie, je voulais rester ici toute ma vie. Ma mère ne l'a pas voulu. Mon confesseur m'a dit que la volonté de Dieu était que je partisse, que la vie était une épreuve. Oh, c'est une épreuve bien dure. « Quoi ? Repartit Paul. Tant de raisons vous ont décidé, et aucune ne vous a retenu. Ah ! Il en est encore une que vous ne me dites pas. La richesse a de grands attraits. Vous trouverez bientôt dans un nouveau monde à qui donner le nom de frère que vous ne me donnez plus. Vous le choisirez, ce frère. » Parmi les gens dignes de vous, par une naissance et une fortune que je ne peux vous offrir. Mais pour être plus heureuse, où voulez-vous aller? Dans quelle terre aborderez-vous qui vous soit plus chère que celle où vous êtes née? Où formerez-vous une société plus aimable que celle qui vous aime? Comment vivrez-vous sans les caresses de votre mère auxquelles vous êtes si accoutumée? Que deviendra-t-elle elle-même déjà sur l'âge, lorsqu'elle ne vous verra plus à ses côtés, à sa table, dans la maison, à la promenade où elle s'appuyait sur vous? Et que deviendra la mienne, qui vous chérit autant qu'elle? Que leur dirai-je l'une et à l'autre quand je les verrai pleurer de votre absence? Cruelle, je ne vous parle pas de moi. Mais que deviendrai-je moi-même? Quand le matin, je ne vous verrai plus avec nous, et que la nuit viendra sans nous réunir, quand j'apercevrai ces 2 palmiers plantés à notre naissance et si longtemps témoins de notre amitié mutuelle. Ah! Puisqu'un nouveau sort te touche, que tu cherches d'autres pays que ton pays natal, d'autres biens que ceux de mes travaux. Laisse-moi t'accompagner sur le vaisseau où tu pars. Je te rassurerai dans les tempêtes qui te donnent tant d'effroi sur la terre. Je reposerai ta tête sur mon sein, je réchaufferai ton cœur contre mon cœur. Et en France, où tu vas chercher de la fortune et de la grandeur, je te servirai comme ton esclave. Heureux de ton seul bonheur dans ces hôtels où je te verrai servi et adoré, je serai encore assez riche et assez noble pour te faire le plus grand des sacrifices en mourant à tes pieds. » Les sanglots étouffèrent sa voix, et nous entendîmes aussitôt celle de Virginie qui lui disait ces mots entrecoupés de soupirs. « Mais c'est pour toi que je pars, pour toi que j'ai vu chaque jour courbé par le travail pour nourrir 2 familles infirmes. Si je me suis prêté à l'occasion de devenir riche, c'est pour te rendre 1000 fois le bien que tu nous as fait. Est-il une fortune digne de ton amitié? Que ne dis-tu de ta naissance? Ah! S'il m'était encore possible de me donner un frère, en choisirais-je un autre que toi? Ô Paul, tu m'es beaucoup plus cher qu'un frère. Combien m'en a-t-il coûté pour te repousser loin de moi? Je voulais que tu m'aidasses à me séparer de moi. Même jusqu'à ce que le ciel pût bénir notre union. Maintenant, je reste... Je pars, je vis, je meurs. Fais de moi ce que tu veux. Fille sans vertu, j'ai pu résister à tes caresses et je ne peux soutenir ta douleur. » À ces mots, Paul la saisit dans ses bras et, la tenant étroitement serrée, il s'écria d'une voix terrible : « Je pars avec elle. Rien ne pourra m'en détacher. » Nous courûmes tous à lui. Madame de la Tour lui dit : « Mon fils, si vous nous quittez, qu'allons-nous devenir ?» Il répéta en tremblant ces mots : « mon fils, vous, ma mère, lui dit-il, vous qui séparez le frère d'avec la sœur. Tous deux nous avons sucé votre lait, tous deux élevés sur vos genoux, nous avons appris de vous à nous aimer. Tous deux, nous nous le sommes dit 1000 fois, et maintenant vous l'éloignez de moi, vous l'envoyez en Europe, dans ce pays barbare qui vous a refusé un asile, et chez les parents cruels qui vous ont vous-même abandonné. Vous me direz, vous n'avez plus de droit sur elle, elle n'est pas votre sœur, mais elle est tout pour moi, ma richesse, ma famille, ma naissance, tout mon bien. Je n'en connais plus d'autre. Nous n'avons eu qu'un toit, qu'un berceau. Nous n'aurons qu'un tombeau. Si elle part, il faut que je la suive. Le gouverneur m'en empêchera ? M'empêchera-t-il de me jeter à la mer ? Je la suivrai à la nage. La mer ne saurait m'être plus funeste que la terre. Ne pouvant vivre ici, près d'elle, au moins je mourrai sous ses yeux, loin de vous. Mère barbare, femme sans pitié, puisse cet océan vous l'exposer, ne jamais vous la rendre, puisse les flots vous rapporter mon corps et, le roulant avec le sien parmi les cailloux de ses rivages, vous donner par la perte de vos deux enfants un sujet éternel de douleur. » À ces mots, je le saisis dans mes bras, car le désespoir lui ôtait la raison. Ses yeux étincelaient, et la sueur coulait à grosses gouttes sur son visage en feu. Ses genoux tremblaient et je sentais dans sa poitrine brûlante son cœur battre à coups redoublés. Virginie, effrayée, lui dit : « Oh, mon ami, j'atteste les plaisirs de votre premier âge. Tes mots, les miens et tout ce qui doit lier à jamais deux infortunés. Si je reste, de ne vivre que pour toi, et si je pars, de revenir un jour pour être à toi. Je vous prends à témoin, vous tous, qui avez élevé mon enfance, qui disposez de ma vie et qui voyez mes larmes. Je le jure par le ciel qui m'entend, par cette mer que je dois traverser, par l'air que je respire et que je n'ai jamais souillé du mensonge. Comme le soleil fond et précipite un rocher de glace du sommet des Apennins, ainsi tomba la colère impétueuse de ce jeune homme à la voix de l'objet aimé. Sa tête altière était baissée et un torrent de pleurs coulait de ses yeux. Sa mère, mêlant ses larmes aux siennes, le tenait embrassé sans pouvoir parler. Madame de la Tour, hors d'elle, me dit : « Oh, je n'y puis tenir, mon âme est déchirée. Ce malheureux voyage n'aura pas lieu. Mon voisin, tâchez d'emmener mon fils. Il y a 8 jours que personne ici n'a dormi. » Je dis à Paul : « Mon ami, votre sœur restera. Demain nous en parlerons au gouverneur. Laissez reposer votre famille et venez passer cette nuit chez moi. Il est tard, il est minuit. La croix du sud est droite sur l'horizon. » Il se laissa emmener sans rien dire, et après une nuit fort agitée, il se leva au point du jour et s'en retourna à son habitation. Mais qu'a-t-il besoin de vous continuer plus longtemps le récit de cette histoire ? Il n'y a jamais qu'un côté agréable à connaître dans la vie humaine. semblable au globe sur lequel nous tournons, notre révolution rapide n'est que d'un jour, et une partie de ce jour ne peut recevoir la lumière que l'autre ne soit livrée aux ténèbres. Mon père, lui dis-je, je vous en conjure, achevez de me raconter ce que vous avez commencé d'une manière si touchante. Les images du bonheur nous plaisent, mais celles du malheur nous instruisent. Que devint, je vous prie, l'infortuné Paul? Le premier objet que vit Paul en retournant à l'habitation fut la négresse Marie qui, montée sur un rocher, regardait vers la pleine mer. Il lui cria, du plus loin qu'il l'aperçut, « Où est Virginie ?» Marie tourna la tête vers son jeune maître et se mit à pleurer. Paul, hors de lui, revint sur ses pas et courut au port. Il y apprit que Virginie s'était embarquée au point du jour, que son vaisseau avait mis à la voile aussitôt et qu'on ne le voyait plus. Il revint à l'habitation qu'il traversa sans parler à personne.